Église en marche, bonjour, une émission de Radio Grand Ciel enregistrée depuis les studios de nos Jean Le Rotrou. Chantal Rat en compagnie du père Yannick Coat. Bonjour père.
Bonjour Chantal, bonjour chers auditeurs.
Bien, pas trop fatigué après ce chemin pour l'évangile dans le Perche?
Ah, c'est une bonne fatigue, non seulement parce que c'est un peu de sport, mais surtout parce que on est allé donc comme on le fait maintenant chaque année à la rencontre des habitants de la paroisse, voilà, des paroissiens en général. Alors particulièrement dans le secteur de d'Auton et de la Bazoche, mais Soisé, Chapelle Royale. Enfin voilà, on a fait tout un petit périple, une vingtaine de kilomètres par jour.
Oui, c'est vrai que c'était assez dense quand même, comme.
C'était dense, c'était chaleureux et frisqué à la fois.
Oui, voilà.
C'est l'occasion en tout cas pour nous, une fois par an, donc de faire ce chemin pour l'évangile dans le Perche, c'est-à-dire d'aller de village en village, de prendre un temps de prière, un temps ludique, un temps sympathique, une pause café ici, un pique-nique là, une soirée campagnarde voilà,
ailleurs,
à l'étape du soir.
Voilà.
Et puis d'être à la rencontre des paroissiens, des gens qu'on croise parfois, voilà. Enfin, en tout cas, on fait toujours connaissance avec des nouvelles personnes et c'est
oui, qui viennent par, ne serait-ce aussi que par curiosité, voir ces prêtres qui se déplacent sur les routes du Perche,
voilà.
Ça peut en interpeller quelques-uns.
Qui prennent leur bâton de pèlerin.
Et c'est, voilà. Et c'était la 6e édition, déjà 6 éditions, donc vous n'allez pas vous arrêter en si bon chemin, si je puis me permettre.
Justement, et oui, c'est jeu de mots. Les deux premières années, donc on l'a fait deux fois par an parce que l'idée était de faire tout le tour de la paroisse à pied, donc on a fait deux fois deux boucles par an. Et puis, comme ça a eu un franc succès, comme ça a marché, pour continuer
voilà.
Vos blagues, Chantal, comme ça a marché, eh bien du coup, on a décidé de prendre ainsi notre bâton de pèlerin une fois par an. Et donc oui, l'année d'après, l'année prochaine, on n'a pas encore décidé où on irait. Dans, voilà. Mais on essaye de faire une fois le secteur sud de la paroisse, comme on l'a fait cette année, là plutôt la Bazoche. Et Auton, une autre fois plutôt le secteur plus au nord, Tiron, Marolles, etc. Une autre fois peut-être plutôt l'année prochaine, on sera peut-être plus sur Beaumont et les alentours.
Les alentours, plus sûr. Plus sur l'ouest. Et puis, alors je sais qu'après, vous avez accompagné quelques jeunes à Thésée. Alors Thésée, ça dit peut-être pas grand-chose quand on habite le Perche. Où se situe Thésée? Qu'est-ce qui s'y passe? Pourquoi y accompagner des jeunes?
Alors Thésée, c'est en Bourgogne. À Thésée, il y a donc une communauté de frères qui est une communauté œcuménique, c'est-à-dire une communauté où il y a des catholiques, des protestants et des orthodoxes, qui a été fondée par un certain frère Roger, hein, qui était ermite au départ, et puis il y a eu des gens qui sont venus, parce que cet homme était plein de sagesse, qui sont venus l'écouter, prier avec lui, etc. Puis petit à petit, une communauté s'est retrouvée là. Et depuis la Seconde Guerre mondiale, enfin la fin de la Seconde Guerre mondiale, cette communauté a grandi. Très vite, des jeunes sont venus pour y passer un mois, pour y passer un an, d'ailleurs aussi pour certains, y vivre une sorte d'année sabbatique, une année de service, une année de spiritualité, d'enracinement spirituel. Et puis, alors ça c'est plus récent, mais depuis au moins 20-30 ans quand même, cependant. En tout cas, une vingtaine d'années, parce que ça fait juste 20 ans que je suis prêtre et je pense que dès le début de mon ministère, j'allais à Thésée. Donc, à la Toussaint, les lycéens, c'est plutôt pour les majeurs, normalement, à Thésée, c'est plutôt pour les étudiants, les grands jeunes, voilà, les jeunes professionnels, etc. Mais depuis, oui, une bonne vingtaine d'années, en tout cas, voilà, il y a un rassemblement pour les lycéens à la Toussaint.
Et alors, mais qu'est-ce qu'on y fait à Thésée?
Alors, on y prie, matin, midi et soir, un temps de prière avec des refrains assez courts. Certains connaissent peut-être « Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler ». On prend des refrains assez courts, c'est une phrase de l'évangile ou une phrase d'un saint qu'on prend de manière litanique. Donc on prie matin, midi et soir. Il y a des groupes de partage qui permettent aux jeunes de partager sur leur vie, donc de lycéens, là en l'occurrence à la Toussaint, sur la vie du monde et sur leur vie de foi et sur leur vie de lycéen tout court. Voilà. Donc il y a des groupes de partage, permet aussi de rencontrer des jeunes. D'ailleurs, il y a toujours des jeunes de Suède, d'Italie, d'Espagne, etc., bon, qui sont là. De prier aussi donc pour l'unité des chrétiens. Et puis il y a pas mal de temps libre durant lesquels parfois il y a aussi des forums, quelqu'un qui témoigne parce que il a été coopérant pendant deux années dans un pays à l'étranger, parce que il a mené telle ou telle belle activité dans sa paroisse parce que il a monté une conférence à Vincent de Paul jeune pour s'occuper des pauvres dans sa paroisse. Enfin voilà.
Donc c'est une
on y chante, on y danse.
On y prie.
Et on y prie.
Donc c'est une belle expérience pour les lycéens qui souvent, c'est un âge aussi où les jeunes se posent des questions quant à leur avenir, quant qu'est-ce que je vais faire de ma vie,
ouais, le sens de leur vie, exactement.
Le sens de leur vie. Donc c'est une petite pause spirituelle, on pourrait dire, pour bien démarrer l'année.
Oui, c'est des vacances spirituelles. Ce qui ne veut pas dire qu'on y prie non plus du matin au soir, parce que les lycéens, ce serait un peu trop. Hein, mais il y a un bon équilibre entre des beaux temps de prière que les jeunes aiment, des beaux temps de partage, et on a aussi un peu du temps pour profiter des collines de la Bourgogne qui ont des couleurs magnifiques à cette saison de l'année. Voilà.
Toutes jaunes et oranges,
j'imagine. Toutes jaunes, oranges et rouges, oui.
Parce que j'y suis déjà moi-même allée.
Tout ça au milieu des vignes, donc c'est très beau.
Alors ça, c'était pour les plus jeunes, enfin tout au moins une certaine, les lycéens. Et nous allons maintenant parler de la fin de vie. Puisqu'il y a une conférence sur la paroisse, sur comment accompagner ce temps si particulier de fragilisation de l'homme en fin de vie.
Oui, vendredi prochain, vendredi 9 novembre. on avait, au mois de juin, fait une conférence dans le cadre suite aux états généraux de la bioéthique. Et qui s'intéresse donc à de nombreux sujets concernant le début de la vie et la fin de la vie, la procréation médicalement assistée, mais aussi bien d'autres sujets, les mégadonnées, qu'est-ce qu'on fait de toutes nos données sur notre santé et qui sont stockées dans des ordinateurs, comment est-ce que tout ça est sécurisé, un certain nombre de questions sur les dons d'organes, un certain nombre de questions qui touchent en tout cas au biomédical en général. Alors cette conférence était une conférence d'introduction un peu générale au mois de juin, mais on a bien senti la nécessité de reprendre du temps pour débattre. Peut-être qu'on n'a pas eu assez le temps de débattre, et sans doute même le 1er juin. Donc on vous propose effectivement cette conférence, donc mais plutôt surtout ce débat. Il y aura une brève introduction donc qui sera faite par le docteur Frédéric Durier, qui est oncologue à l'hôpital de Chartres. Et puis, moi-même, je dirai quelques mots sur le sens de la bioéthique en général, pas seulement tant comme curé de paroisse que comme professeur d'éthique et de théologie morale au séminaire à Orléans. Et ce sera l'occasion pour nous de dire comment est-ce que on accompagne la fin de vie. C'est le titre d'ailleurs des fiches, hein, de l'affiche, le diocèse, le comité de bioéthique, comité de bioéthique du diocèse a publié 4 fiches, dont une sur la fin de vie, hein, dont le titre est « Fin de vie, comment accompagner ce temps si particulier de fragilisation de l'homme ?» Ce sont des fiches qu'on peut y retrouver en ligne.
Sur le site de la paroisse.
Exactement, ou sur le site du diocèse, sur le site de la paroisse en tout cas, hein, sur www.saint.com.
Saint-Lubin-du-Perche.fr.
Voilà, Saint-Lubin-du-Perche avec des tirets partout et .fr.
Et Saint en entier, S-A-I-N-T.
Saint-S-A-I-N-T, tout à fait. Donc on débattra, hein, de même si à première vue, les lois de bioéthique qui vont être révisées ne vont sans doute pas réviser la question de l'ouverture ou non à l'euthanasie. Hein.
Voilà, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Voilà, la question va être l'euthanasie, parce que pour moi qui suis un petit peu le quidam lambda, c'est un petit peu ce qu'on entend parler quand on parle de fin de vie, c'est euthanasie, suicide assisté, enfin voilà, tout ça sont des concepts un petit peu qu'on ne maîtrise pas du tout d'ailleurs.
Alors on a déjà en France un certain nombre de lois qui permettent d'accompagner la fin de vie, hein, notamment la loi Leonetti 1 et la loi Leonetti-Claes, qui est la loi Leonetti 2. Voilà, on peut par là se rappeler, hein, comment est-ce que cet accompagnement de la fin de la vie doit tenir compte, en tout cas aussi, du cheminement de la personne, de son accompagnement, j'oserais dire, spirituel, même si le texte de loi ne le dit pas ainsi, mais au sens large du terme, c'est-à-dire que dans la fin de la vie, c'est aussi tous ces moments où on est fragile, mais où on a besoin de prendre le temps de dire au revoir aux siens. La question ne se pose pas de la même manière quand la mort est brutale. Hein. La question est évidemment la difficulté d'accompagner quand la douleur est là, quand la personne se dégrade. Comment accepter Et est-ce possible d'ailleurs de le faire le sentiment qu'on a parfois de perdre sa dignité. À ce titre, les évêques rappellent hein, justement tout l'enjeu d'un accompagnement qui est un accompagnement fraternel hein, à la réponse par l'euthanasie. Les évêques proposent au contraire un regain, un ressort hein, de fraternité. Alors évidemment, ça demande aussi un certain nombre de moyens d'accompagnement des aidants. Hein. On sait combien parfois
oui,
les aidants ont besoin d'être aidés aussi. Mais aussi, évidemment, de moyens financiers. C'est-à-dire que on voit comment dans les hôpitaux, avec grande générosité, tout le personnel médical se donne. Et en même temps, il y aurait besoin de moyens pour qu'ils soient plus nombreux, pour accompagner chacun. Voilà.
Oui, donc on va... sait s'il y a des progrès quand même qui ont été faits sur ce sujet.
Voilà, ouais, tout à fait. Mais en même temps, comment est-ce qu'on peut... promouvoir une culture d'accompagnement de la vie, mais aussi d'acceptation finalement du fait que oui, nos vies sont fragiles, que cela ne retire rien à la dignité de la personne, et qu'au contraire, ça donne tout un sens à la dignité de chacun d'entre nous. La manière dont on accompagne la fin de vie est une manière aussi d'accompagner la vie tout court, en général.
Oui.
Enfin, autant de sujets dont on va voilà, débattre.
Donc, rendez-vous le 9 novembre à la maison paroissiale, 85 rue Paul Deschanel, Nogent-le-Rotrou, 20h30.
20h30 le 9 novembre, tout à fait.
Alors, après la conférence de bioéthique, Père Yannick, vous nous proposez une formation, je ne sais pas trop comment intituler ça, sur le catéchisme de l'Église catholique. Alors là, ce sont des gros mots là, que j'emploie.
Des grands mots, en tout cas. Voilà, c'est simplement, il y a cette demande hein, d'un certain nombre d'adultes qui nous disent parfois, mais il n'y a pas du caté pour les grands, il n'y a pas du caté pour les adultes. Alors, j'ai proposé cette année, et beaucoup semblent répondre positivement, qu'on se retrouve pour faire une lecture suivie donc de ce catéchisme de l'Église catholique qui est sorti dans les années 90 à l'initiative du pape Jean-Paul II, hein, qui est le catéchisme qui fait suite lointainement au Concile Vatican II. Alors, ça se présente pas comme un catéchisme pour les enfants, bien entendu. Le catéchisme de l'Église catholique, il se divise en quatre grandes parties. Une qui est un commentaire du « Je crois en Dieu », une autre qui est plutôt une partie sur la liturgie et les différents sacrements, comment est-ce qu'on prie, quels sont les différents sacrements et comment est-ce que on les célèbre, et puis une partie plutôt sur la vie chrétienne au quotidien, ce qu'on appelle justement l'éthique ou la morale, la théologie morale, et puis une dernière partie sur la prière. Alors, on va pas faire tout cette année parce que c'est un vaste programme.
Oui, cela je.
Mais on va déjà, en tout cas, faire ensemble une lecture du commentaire que le catéchisme fait du « Je crois en Dieu ». Voilà, tout simplement l'occasion de se redire ensemble d'où viennent ces textes, pourquoi est-ce que la Bible ne suffit pas après tout, pourquoi est-ce qu'il y a une interprétation aussi de la Bible, et puis l'occasion bah, de se redire ensemble qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est tout-puissant, alors que cette toute-puissance s'exerce d'une manière tout à fait particulière, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est créateur, qu'est-ce que ça veut dire que Jésus c'est Dieu qui s'est fait homme, enfin voilà, autant de questions.
Alors là, vous nous suscitez l'envie. Et alors pour cela, nous avons rendez-vous le 29 novembre.
À 15h ou à 20h30. Il y aura une séance l'après-midi et le soir, et ainsi une fois par mois.
Eh bien, vous serez informés. En attendant toutes ces dates, chers auditeurs, je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir.
Au revoir.